juste derrière moi. Demain, après-demain, il n'y a pas d'émission parce qu'il y a du foot, il y a de la Coupe d'Europe. Mais je vous rappelle que Bonus Track, c'est 24h sur 24 en s'abonnant au podcast ou en allant sur l'application RTL et nos plateformes partenaires. En plus, on découpe les émissions pour que ce soit plus facile à écouter. Bref, abonnez-vous, ça fait très très plaisir à mes patrons. Bisous, à samedi dans le grand studio avec Grand Corps Malade et puis samedi et dimanche matin pour Bonus Track, pas Bonus Track, pour Stop ou Encore à 10h15. Ciao, il est 22h. Les informations, c'est avec Victor Pourchet. Bonsoir, cher Victor.
Bonsoir, Eric, et bonsoir à tous. Elle était très attendue par les automobilistes de l'A13, la compensation de l'État. Pour ceux qui utilisent habituellement l'autoroute aux portes de Paris, il va prendre en charge la moitié du prix du péage de l'A14, c'est-à-dire l'itinéraire bis, depuis que la première est bloquée à cause de fissures sur la chaussée, mesure dont on ne connaît pas toutes les modalités d'application. On sait qu'elle ne concerne que les covoitureurs jusqu'à la remise en service de la 13, un axe qui va rouvrir dans un seul sens, celui pour entrer dans la capitale à partir du 11 mai. Dans l'actualité également, ni manquement du collège, ni preuve de harcèlement. Ce sont les conclusions de l'enquête administrative dans l'affaire Samara. Cette adolescente tabassée il y a près d'un mois à la sortie de son établissement de Montpellier, sa mère accusait le corps enseignant de ne pas avoir assez protégé sa fille. Alors pour elle, ces annonces ne passent pas.
Ça me choque. Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ma fille, voilà, elle soit protégée ? Pour moi, ben, pas grand-chose. Voilà. Moi, j'ai parlé avec le professeur principal de ma fille qui m'a dit, voilà, les élèves, ils sont pas là pour discuter avec votre fille, ils sont là pour la frapper. Quel était son devoir ? C'était normalement à l'enquête de le déterminer, mais eux, ils estiment qu'il n'y a pas de négligence. Ça me perturbe. Comment on peut expliquer qu'une enfant qui a vécu tant de choses pendant tant de temps, c'est uniquement un conflit entre des élèves ou que ça relève que des réseaux sociaux ? Non. Pour moi, c'est pas un discours que je peux entendre.
Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Samara ? Comment va Samara aujourd'hui ?
Pour le moment, elle est pas bien. Voilà, psychologiquement, ben, le fait qu'elle soit à la maison, qu'elle soit, on va dire, un peu en retrait, il n'y a plus d'école, c'est une double peine, en fait, pour elle, la pauvre.
Témoignage recueilli par Nerissa Emani pour RTL. Je vous rappelle que dans cette affaire, 5 mineurs sont mis en examen pour tentative d'homicide. Et puis Donald Trump, en plein procès, et qui vient d'être condamné à 9 000 $ d'amende pour outrage en cause des messages offensifs sur son site de campagne, concernant notamment des jurés. S'il ne les retire pas, le juge a même menacé de l'incarcérer, Karine Houten.
Oui, pour la première fois ce matin, l'idée de voir Donald Trump derrière des barreaux est devenue concrète et ça montre bien comment l'ancien président est ingérable. Le juge l'avait pourtant prévenu, interdiction de s'attaquer à ceux qui témoignent à son procès, y compris sur les réseaux sociaux. Ce serait de l'intimidation. Une jurée a notamment quitté le jury après un poste de Donald Trump. En salle d'audience, l'ancien président s'est carrément endormi à plusieurs reprises, malgré l'enjeu historique de ce procès. On sent aussi qu'il trépigne, il est frustré par son principal avocat, Todd Blanche, pas assez agressif à son goût. Il est de plus en plus comme un lion en cage. Sa stratégie de se servir des audiences comme d'une antichambre de sa campagne commence à faillir. Il se retrouve finalement enfermé alors que son opposant Joe Biden, lui, est sur le terrain tous les jours.
Merci Karine Houten, la correspondante de RTL aux États-Unis. La météo maintenant et ce temps pluvieux demain sur les trois quarts du pays avec des orages en journée. Ce sera plus marqué sur le centre-est notamment, mais ce sera plus lumineux sur l'Alsace-Lorraine. Côté température, les maximales, elles iront de 10 degrés à Tarbes et jusqu'à 26 à Strasbourg. Et puis les courses, le quintet est à Saint-Cloud demain après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 5, le 3, le 11, le 2... Le 9, le 8 et le 4, l'outsider de RTL, c'est le numéro 2, Jojo Junior, 22h03 sur RTL, l'heure de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Victor, alors vous ne faites pas le pont ?
Non, pas malheureusement, à mon grand désespoir.
Non plus, on est ravis de vous retrouver.
On est content d'être avec les auditeurs quand
mais
même, il faut
sûr.
Le dire.
Bien sûr, vous serez là demain ?
Non, pas demain, mais tout à l'heure, à 23h.
Ah, tout à l'heure, bon alors à 23h, mon cher Victor.
À tout à l'heure.
Avec plaisir.
Bonne nuit sur RTL.
RTL, vivre ensemble. Chaque matin à 8h50.
Oui, c'est Jackie Chasson. Oui. Ça veut dire quoi, journée mondiale de la Terre ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait attention, on appuie sur le petit bouton de la chasse d'eau pour le pipi, puis sur le gros bouton pour la grosse commission, la journée de la Terre. Et que les 364 autres jours de l'année, on appuie sur le gros bouton, même pour un petit pipi, on en perd la tête. Hein.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
Pas de fête du travail demain soir pour le PSG. Les Parisiens ne devront pas chômer sur la pelouse de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Borussia PSG, un choc à vivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h.
RTL Foot.
RTL. 22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, ravie de vous retrouver. Peut-être que vous faites le pont, alors j'espère que vous allez en profiter pour être avec nous, éveillé un peu plus tard que d'habitude, avec la petite équipe. Nous serons là et en direct demain, le 1er mai, et jeudi aussi, mais à partir de 23h, parce qu'il y a beaucoup de matchs de foot hein, en perspective en ce moment, donc tous ceux qui aiment le foot, comme Bob White et plein d'autres, ben, vous allez être contents, match important, que vous allez vivre bien sûr avec l'équipe des sports en direct sur RTL. Mais pour le moment, nous sommes là aux horaires habituels. Alors profitons de ces 2h30 de direct pour dialoguer en toute liberté sur tous les sujets que vous avez envie d'aborder avec moi. Un seul numéro, le 09 69 39 10 11 ou jusqu'à minuit et demi, Violaine accompagnée de Valentin ce soir. C'est pas son Valentin, mais c'est un Valentin qui est là et qui va vous accueillir. Ben oui, parce qu'il faut que je vous dise, Paul, il est de mariage. Alors, c'est pas le sien non plus, hein, mais il sera de retour demain, voilà, avec nous. Marc Bisset, lui, ben, ça fait déjà un petit moment hein, qu'il a enterré sa vie de garçon. Donc, il est avec nous jusqu'à la fin et dans les jours qui viennent, à la réalisation, bien sûr, de l'émission. 09 69 39 10 11. Parlons-nous sur RTL. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Caroline.
Ah, ça c'est un bonsoir tonique.
Ah oui, j'espère bien quand
oui.
même. Hein, il n'est pas encore assez tôt pour s'endormir.
Non.
Donc je ne vous appelle pas, il y a tellement de personnes qui vous appellent pour des drames épouvantables. Je me rappelle, il y a 2-3 jours, cet homme qui avait sa femme extrêmement malade,
oh oui.
avec deux petits-enfants, oui. c'était vraiment poignant.
On
etc.
pense à lui, j'espère que la nuit, qu'il a pu trouver le sommeil. Oui, c'est des drames terribles quand il y a une maladie. Vraiment,
voilà. Et puis, vous êtes tout à fait adorable, Caroline. Vous avez déjà une voix, on vous l'a dit 100 fois, de ce que moi, en mois de novembre, je crois, qui est apaise, et puis vous savez trouver les mots naturellement, mais quand même, c'est pitoyable.
Dans des situations comme celles que vous décrivez, c'est difficile.
On ne sait pas que dire, vous voyez. Donc, moi, j'ai eu de vie, ma foi, qui n'est pas très drôle, mais je commence à reprendre un peu le dessus, parce que...
Oui.
J'ai fait quand même une très grosse dépression. Je disais à mon psychiatre la semaine dernière, je commence à me réveiller.
Ah, bah tant mieux, ça doit vous sembler bon, hein.
Ça me semble bon.
Quand on en sort.
Et du coup, j'ai dit, je vais appeler Caroline. Voilà.
Ah. C'est adorable, c'est délicat de votre part. Vous m'appelez pas quand vous êtes dans le tunnel noir, sombre de la dépression, mais vous appelez quand vous commencez à en sortir.
Voilà, quand je peux donner un peu d'énergie autour de moi. J'ai toujours été comme ça et je suis ravie de me retrouver un peu moi-même, si vous voulez.
Oh, ben, je comprends, parce que c'est terrible la dépression, hein.
Ah ben oui, c'était un divorce très tardif.
Ah bon ?
Ça fait, voyons, 30 ans que je connais mon mari maintenant.
Oui.
Et je suis revenue, comme je disais à Violaine, après beaucoup de voyages ailleurs qu'en France, etc., pour le retrouver parce qu'il n'arrivait pas à se faire renommer à Nouméa, où je l'avais connu, étant magistrat.
Ah, mais on s'est parlé.
Voilà,
je m'en souviens
d'un mari
magistrat à Nouméa.
Voilà,
oui.
Au mois de novembre, et vous m'aviez laissé sur votre podcast un petit quart d'heure pour comme je suis très bavarde, ben, j'avais mon petit quart d'heure à moi, quoi.
On avait fait un podcast autour de votre témoignage. D'accord.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc là, en revenant en France, ben, après 40 ans d'absence, j'ai trouvé une famille, je ne sais pas si on peut dire en liquéfaction, mais en tout cas explosée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas retrouvé mon mari puisqu'il y a eu une procédure en divorce assez vite et que je suis divorcée maintenant depuis 1er décembre 22.
Oui, c'est très récent.
C'est tout récent. Oui. Ça a été très, très, très contentieux puisque donc il est magistrat et moi je suis aussi juriste, entre autres.
Oula, qu'est-ce que ça donne un divorce de juriste ?
Eh bien, ça donne que si vous voulez...
Ça n'en finit pas. On trouve toujours des petites vis de forme, de procédure et autres.
Non, il n'y avait pas de vis de forme, de procédure. Mais si vous voulez, comme je vous l'avais dit déjà la première fois, mais bon, on répète naturellement, j'ai toujours été pour la défense des droits des femmes, extrêmement féministe.
Oui.
Et étant juriste, justement, j'avais créé notamment à Nouméa une association pour les droits de la femme. Mmh. Et je prenais sous mon aile des femmes battues, violées, enfin, toutes les choses horribles qu'on entend actuellement. Oui. J'arrivais à les sortir de chez elles avec leurs enfants et à les loger temporairement. Et accessoirement, si nécessaire, je les guidais pour leur procédure contre leur mari, leur conjoint, leur compagnon, etc. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que mon propre mari a été violent avec moi à 11h du soir. Il a voulu m'étrangler dans la cuisine. Et je me suis protégée, comme tout le monde, le cou avec mes deux avant-bras, si vous voulez, qu'il a attrapé pour essayer de me retirer. Et
mais là, c'est ce qui a motivé la procédure de divorce ?
Non, il y avait d'autres choses, parce que comme on a été séparés pendant quelques temps, je suis arrivée, le ciel m'est tombé sur la tête, à découvrir des tas de choses qui s'étaient passées.
Mais il avait déjà été violent avec vous ?
Justement, donc, c'est ce que Madame la procureure m'a demandé.
Oui.
Et comme j'ai répondu simplement non, c'était la première fois, ça a été un argument en ma faveur et pour montrer que mon mari mentait.
Parce que c'est pas rien pour un premier acte, passage à l'acte violent, une tentative d'étranglement.
Ben justement, on m'a demandé s'il avait serré, j'ai dit non. Mais j'avais quand même des marques.
Le geste, vous aviez des marques.
Voilà. Et puis j'étais pas une toute jeune fille quand même, j'avais déjà 76 ans à l'époque. Et j'avais donc les marques de ses poignets sur mes bras, des bleus, etc. Et ça, le lendemain, je suis aussitôt allée voir la police.
Mais oui,
j'ai appelé mon médecin, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre les photos, il m'a dit oui, venez.
Oui.
Quand j'ai eu les photos, je suis allée voir la police. Et donc, la procédure a suivi son cours.
D'accord.
Et bizarrement, quelques temps après, ça c'était un lundi soir, j'avais 76 ans depuis 4 jours, très exactement.
Oui.
Et quelques temps après, mon mari qui avait manifestement zappé tout ça, c'était pas tellement important, voit mes bras, j'avais un pull, les manches tombées sur mon coude, etc.
Oui.
Mais qu'est-ce que tu t'es fait au bras ? Ben, je dis, comment est-ce que je me suis fait ? C'est toi qui m'as fait ça. C'est pas moi toute seule, c'est toi. Alors, il s'en va dans le grand séjour et puis il me crie, ah, ben comme ça, tu pourras porter plainte. Mais je dis, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Voilà.
Mais et parce donc, que c'est comme si ça n'avait pas eu lieu, ce...
Oui. Il a complètement zappé ça.
Mais qu'est-ce qui a occasionné ? Enfin, rien ne peut justifier un tel acte de violence. Mais vous dites que c'est la première fois, c'est quand même, ça a été très violent. Et il s'en explique pas. Enfin, quand bien même, de toute façon, ça voudrait ce que ça voudrait, mais...
Non, il s'explique pas. Il semble même avoir complètement oublié,
oui, c'est ça.
Donc, mon anniversaire est en novembre, il est toujours en novembre.
Oui.
Et à Noël, il me dit, ben, écoute, je vais te faire, j'aime bien l'expression, un faisant au coin. Je dis, moi, ça m'intéresse.
C'est surréaliste. Pardonnez-moi, mais on passe de la scène, terrible, violent, au faisant.
Non, il avait tout zappé, même que j'étais encore là. Voilà, moi j'attendais que la procédure se déroule et je savais que je ne pouvais pas aller ailleurs. C'était plus pratique pour moi d'être à l'époque donc à Nancy. Et je lui dis, moi ça ne m'intéresse pas, étant donné l'ambiance, ça ne m'intéresse pas du tout. Ben, si, je vais te faire ça. Ben, en fait, c'est parce qu'il avait envie de faire ça, point final. Et ben, l'audience a eu lieu, non d'abord, c'est ça. Moi j'avais donc porté plainte devant sont un agent de police ordinaire, enfin basique. Oui. Mais quand on a vu ça dans les hautes strates de que c'était contre un magistrat, évidemment, le brigadier chef m'a rappelé en me disant « Écoutez, madame, il faut absolument que je vous voie. Je peux pas laisser ça comme ça, etc. » Donc, j'ai dû retourner là-bas.
Oui, mais oui.
Et il m'a reposé des questions un peu plus précises que ce jeune ne m'avait pas posées. J'étais intimidée parce que je portais plainte.
Ouais.
Et puis ce brigadier chef, je me souviens, c'était avant Noël, qui m'avait fait venir, et il m'avait dit, ben, je vais convoquer votre mari. Et puis et Noël passe, les fêtes, tout ça, et mon mari ne me disait rien. Bon, mais ceci dit, c'était habituel dans son caractère. Et puis un jour, ce brigadier chef sonne au parlophone chez moi.
Oui.
Et me dit, écoutez, madame, est-ce que votre mari est là? Ben non, il est en ville, il est pas chez moi, chez nous. Bon, ben je lui laisse une convocation dans la boîte aux lettres. Il y a toutes les informations. S'il veut changer le rendez-vous, il me rappelle. Mais voilà, je veux l'entendre.
Mais
très bien, je lui dis d'accord, je vais lui donner ça. Donc le soir, je lui reparle de la scène, il me regarde avec des yeux complètement ahuris. Comme si je rêvais, puis je lui dis, bon, ben, écoute, t'as une convocation à la police pour ces jours-ci, tu peux changer le rendez-vous, etc. Et puis, donc, moi, j'attendais qu'ils me disent, mais non, l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire, il adore les cacheries, mentir, cacher, etc. Il m'a pas dit quand il a été entendu.
Oui.
Mais c'est le brigadier chef, un jour, que j'ai appelé. J'ai dit, écoutez, monsieur, je suis étonnée. Est-ce que vous avez entendu mon mari ou non? Il me dit, oui, je l'ai entendu. Et il me dit, ben, je vous plains, vous avez fort affaire avec quelqu'un comme ça. Il a tout de suite vu qu'il mentait, quoi. Et moi, je ne supporte pas les mensonges.
Mais il a été condamné pour cela? Parce que vous me parlez de la procureure qui a posé des questions.
Bah, bien sûr, il y a eu un tribunal. Il y a eu un tribunal.
Bah, oui, parce que vous aviez des certificats médicaux. Et il a été condamné pas?
Et moi, je ne voulais... Alors, tous les magistrats de notre environnement m'ont appelé.
Ça a dû faire du bruit, ça. Oui, dans le... Enfin, c'était à Douméa, dans le... Parmi
je ne retire rien du tout. Non, non, retire ta plainte. Non, non, il n'en est pas question, et oui, etc. Oui. Surtout que mon mari avait un poste assez important à la cour d'appel. Voilà, je dis non. J'ai milité pour les droits des femmes. J'ai créé des associations pour les droits des femmes. Je défends toujours les femmes battues. Et je ne vais pas, moi, retirer une plainte quand c'est moi qui suis en cause. Hors de question. Donc, évidemment, tout le monde m'a claqué la porte au nez. Je n'ai eu aucun
soutien. On vous a tourné le dos.
D'accord. Ah ben oui, mais je me soutiens toute seule dans ces cas-là, Caroline.
Oui, mais enfin, je comprends, vous parlez de dépression après, je comprends que tout ça, tout ce que vous avez vécu, c'est quand même très rude.
Hein. Très, très dur.
Et très seule, et pas soutenue.
Pas du tout soutenue, même par ma famille, etc.
Oui,
donc,
oui.
Et puis j'étais dans une ville, bon, j'ai adoré vivre à Nancy, mais j'avais des amis, mais c'était autour de la magistrature, les avocats, etc. Les avocats m'ont soutenue, mais pas les magistrats. Et puis, bah, du coup, il y a eu une audience. Les faits avaient lieu en novembre. Lui a été entendu en janvier. L'audience a eu lieu en juillet. Et alors, cette audience a été une horreur pour moi parce que il n'a cessé de mentir. Évidemment, il savait ce qu'il fallait dire et pas dire. Moi aussi, puisque je le suivais dans
ses... Oui, mais enfin, il y avait quand même des certificats médicaux qui étaient là.
Tout à fait. Tout à fait. Mais quand vous voyez, ça, j'étais scandalisée. Vous voyez, d'abord, on m'a changé de présidente. Ça devait être une présidente juge unique. Et mon avocate m'a dit, on la change parce qu'elle prétend que vous êtes avec elle en gym. Donc, elle ne veut pas qu'on puisse dire que nous sommes copines.
Oui, c'est ça.
C'était normal, elle s'est déportée, comme on dit en droit juridique. Bon, alors, après est venu un autre magistrat, un homme cette fois-ci, et mon avocate m'a dit, oh là là, on n'a pas de chance. C'est un misogyne épouvantable et il n'a aucune qualité en droit pénal.
D'accord.
Il est spécialiste en droit administratif. On n'a vraiment pas de chance. Et ces messieurs, alors il a commencé par interroger mon mari, bien sûr, le prévenu, mais pas pour lui poser des questions qu'on pose habituellement à un prévenu, pour lui dire, nous nous sommes connus dans les couloirs de cette maison, nous ne sommes ni parents ni amis.
Lors de l'audience, il rentrait sur un terrain plus privé.
Absolument, qu'il s'était connu dans les couloirs de la maison, qu'il n'était ni parents ni amis, comme dit le code pénal, mais enfin, il s'était salué. Bon. Et alors, le pire, Moi, j'étais déjà bouleversée d'avoir lu ces déclarations qui étaient mensongères. J'ai eu mes ces déclarations que la veille au soir. Et j'en entendais mentir. Moi, je suis quelqu'un de direct.
Il n'a jamais reconnu les faits, votre mari?
Pas devant la... Non, jamais.
Il n'a jamais reconnu. Jamais. Mais alors, est-ce qu'il a été condamné ou pas, d'ailleurs?
Alors, j'ai entendu requérir la procureure en disant, mais on voit bien que cette femme ne ment pas. Quand on lui demande s'il y a eu d'autres agressions, elle dit non.
Oui.
Quand on lui demande s'il a serré ses mains autour de son cou, elle dit non. On voit bien qu'elle ne veut pas l'accabler. Mais regardez, j'ai 20 cm de plus qu'elle. Elle a quand même 76 ans. Elle a 10 ans de moins que lui. Et 10 ans de plus que lui, pardon. Et elle est asthmatique. Elle a de l'hypertension. On comprend qu'elle ait eu peur toute seule à 11h du soir dans sa cuisine. Voilà. Et la procureure, compte tenu de ce que tout a été dit en ma faveur, a demandé des peines de dommages et intérêts. Je crois que j'avais 6000 euros de dommages et intérêts, etc. contre mon mari. Voilà. Mais la procureure demande et le président décide. Donc il a mis la décision à la semaine d'après.
Oui.
Et la semaine d'après, je suis revenue à 8h30 le matin. Relax. Alors, j'étais vraiment comme
vous violent,
faites,
c'est...
J'étais, vous voyez, tout a été comme ça dans ma vie, Caroline. Relax.
Ah oui, c'est vraiment...
Donc, c'était horrible pour moi.
Oui, je comprends. Oui, parce qu'il y a une négation de ce que vous aviez subi.
Absolument.
S'il y avait, oui, vraiment. Alors, votre avocate, malheureusement, c'est ça, ça dépend aussi de... Elle connaissait ce magistrat, et bon, voilà, elle n'était pas très optimiste.
Ça.
Mais alors, vous étiez à Nouméa à ce moment-là?
Non,
vous étiez revenu à Nancy.
J'étais revenu en France.
Parce qu'au départ, vous me parliez, alors je comprends qu'après tout ça, évidemment, entre cet acte de violence, ce traumatisme, ce désaveu du tribunal, le divorce, et puis vous avez commencé en me disant un peu le délitement de votre famille, que vous n'aviez vu que de loin en loin, puisque ça faisait 40 ans que vous étiez partie.
Exactement, je suis partie en 59 avec mon premier mari. Nous sommes allés à Brazzaville, au Congo, donc on est resté 3 ans. J'ai eu un fils aîné là-bas qui est décédé à 4 mois de la mort subite du nouveau-né. Vous
m'en aviez parlé, oui.
Voilà, exactement. J'étais toute seule à Brazzaville. Mon mari faisait ses classes en République centrafricaine. Bon, ensuite, nous avons eu toujours à Brazzaville un deuxième enfant qui est actuellement toujours à Nouméa. On est allé à partir de 70. Puis nous sommes revenus à Paris et puis j'ai eu une fille en février 63 qui devait naître au Tchad, mais on devait être expulsé. Mon mari était à la radio et à la télévision, on devait être expulsé. Il m'a dit, vaut mieux que tu ailles à Saint-Germain-en-Laye, près de Saint-Germain.
Oui, mais je me souviens très bien de votre histoire, mais pour revenir à votre... Parce que j'ai peur, en fait, que vous n'arriviez pas au ce qui motive votre appel. Quand vous parlez de votre famille, je crois que c'est plutôt par rapport à vos frères et sœurs, au fond, ou quand vous les avez retrouvés, pas seulement par rapport à vos enfants, non, je me trompe.
C'est un petit peu tout, Caroline, puisque, comme justement je suis en train de vous l'expliquer, je suis partie donc 40 ans, en gros, de Paris, sur le Congo, le Tchad, le Cameroun, revenu 2-3 ans à Paris, puis nous sommes repartis en principe pour 3 ans en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Moi, j'y suis restée 30. Entre-temps, on avait divorcé avec mon premier mari et j'ai rencontré mon deuxième mari là-bas, justement.
Oui.
De la République. Alors, d'accord. Revenant...
Mais votre retour, voilà, comment ça se passe? On voit dans le contexte du procès, c'est très douloureux de rentrer dans ces conditions-là, le divorce, et puis finalement, cette famille que vous aviez un peu perdue de vue, je ne sais pas où vivaient vos enfants, d'ailleurs. Où vivent vos enfants?
Ma famille, je ne l'avais pas perdue de vue, mais si vous voulez, j'ai 3 sœurs qui restaient toujours... Alors, elles, contrairement à moi, qui ai toujours envie d'aller voir des pays et des gens qui ne sont pas comme moi, elles sont restées à Saint-Germain-en-Laye autour de ma mère.
Moi, c'est une jolie ville.
Celle-ci, oui, tout à fait. Mais elles n'ont pas bougé d'un pouce. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on reste toute la vie comme ça. Mais ça arrive souvent.
Oui.
Voilà. Bon. Donc déjà, vous voyez, là, il y avait un écart fondamental entre nous. Donc j'ai 3 sœurs plus jeunes que moi. J'expliquais aussi à Violaine que comme j'étais l'aidée, comme j'étais brillante, et comme il fallait à l'époque, je suis née en 40 quand même, donc il n'y avait pas les lave-vaisselle, les machines à laver. Bon, il fallait que j'aide beaucoup ma mère. Donc j'aidais ma mère, notamment en allant chercher les anges glacés de ma dernière sœur qui est née en 47 sur les fils du jardin, etc., etc. Puis après, je devais les faire travailler, leur faire réciter leurs leçons, leur expliquer ce qu'elles n'avaient pas compris. Puis, petit à petit,
vous étiez l'aînée, donc vous étiez chargée de beaucoup de responsabilités.
Voilà, mais ça ne me dérangeait pas. Oui. Mais si vous voulez, en revenant en France, donc 40 ans pratiquement après mon départ, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Mes sœurs d'abord ne m'écrivaient pratiquement jamais. Ben, c'est maman qui écrivait pour tout le monde. Et il n'y avait pas de chaleur humaine quand je suis revenue.
Mais vous êtes partie aussi, vous aviez quel âge ?
J'avais 18 ans.
Vous vous rendez compte, c'est toute une vie aussi. Oui. Enfin, vos sœurs, c'est ça après, au fond, vous, la vie que vous avez eue adulte, vous ne vous connaissiez plus. Vous ne saviez plus.
On se connaissait parce
L'enfance, c'est le terreau, mais c'est pas après quand on se perd
c'est
de
vrai,
vue à l'âge adulte. Bon.
Mais déjà, j'étais beaucoup plus mûre que les autres. Moi, j'ai passé mon bac à 15 ans. J'adorais lire. J'étais tout le temps dans les livres, etc. Je faisais du piano, enfin plein de choses. Et je n'avais pas beaucoup de points communs avec elle, en fait. Et quand je suis revenue, je pensais retrouver déjà mes trois sœurs et puis leurs enfants. Il y a des enfants aussi là-bas. Bon, je ne les ai pas retrouvés. Ma mère est décédée assez vite après quelques années après mon retour avec la maladie d'Alzheimer. Je pensais retrouver mon mari dont j'avais été séparée quelques années, puisqu'il n'arrivait pas à se faire renommer à Nouméa, où moi j'étais tenue de rester jusqu'en 99 au moins. Et puis, quand je reviens, que je sens que c'est plus du tout le même homme, donc ça commence à être un peu tendu, mais je comprends pas pourquoi. Parce que je suis bête, Caroline, vous voyez?
Mais vous, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Eh ben, je comprends pas pourquoi il a changé. Je comprends que je suis pas du genre à aller fouiller dans les affaires.
Et le mari, là, celui qui a eu cette agression,
Tout à fait, qui était magistrat.
Oui, il était magistrat, mais enfin, on voit bien, c'est un magistrat, mais enfin, qu'il y a un moment, il a quand même tenté de vous étrangler.
Ah ben, tout à fait.
De toute façon, la violence, ça montre une chose. La violence, ça touche tous les milieux sociaux.
Absolument.
On a toujours tendance, et malheureusement, il y a des clichés, que c'est dans les milieux très populaires, très modestes, que c'est lié à l'alcool.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas vrai du tout. Ça touche tous les milieux sociaux.
Tout à fait.
Bon. Et alors moi, pourquoi c'est vrai. D'ailleurs, vous décrivez un homme. Vous avez l'honnêteté de dire qu'il n'y avait jamais, il n'avait jamais eu d'agressivité.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Parce qu'il
cachait toujours
pour
pas aujourd'hui.
Caroline, il cachait bien son jeu.
C'était quoi son jeu?
Eh ben, toutes ces trahisons, tous ces mensonges. J'ai découvert au fur et à mesure de la procédure et avec l'aide des psychiatres qui m'ont suivi. C'est que c'était un pervers narcissique et sexuel. Il y a pas de.
C'est curieux de le découvrir via des magistrats, parce que pour le coup, vous aviez une sexualité avec lui.
Tout à fait.
Oui.
Mais c'était pas la même chose que
il
quand lui allait voir d'autres personnes.
Il n'était pas pervers avec vous, d'accord. Avec vous, il avait des comportements
de façon,
plus classiques. D'accord.
Puis moi, pour me manipuler, c'est assez difficile, même si je suis assez naïve. Mais on ne me fait pas faire ce que je ne veux pas faire. Ça, c'est certain.
Oui. D'accord. Voilà. Donc, il avait des maîtresses. D'accord.
Oh, des gens en contact, une liste de 10, 12 personnes.
Oui.
J'ai vu des tas de numéros appelés 30 secondes, 20 secondes. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était parce que j'ignorais ce que c'était que des SMS. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'est déplacé, qu'on est revenu vers la Bretagne où je suis, j'ai découvert le poteau rouge, j'ai découvert des tas de choses, des tas de gens qui se réunissaient autour de lui, etc. Et c'était finalement, pour faire simple, une espèce de Strauss-Kahn. Voilà.
Ouais.
Alors ça m'est tombé sur le
un libertin,
point du nez. Voilà.
Enfin, libertin, c'était au-delà, parce que on peut être libertin et pas agressé.
Tout
ça
à fait.
Rien à voir, tout à fait.
C'est
pour ça que je me reprends tout de suite.
Moi, il m'a agressé parce que je lui dis qu'il était un menteur. Et voilà, ça lui a pas plu. Et alors, il a commencé à mentir à l'audience en disant que je lui avais dit qu'il était un salopard. Or, en droit pénal, ça je le savais, évidemment, plus l'injure est violente, plus j'ai tort. Mais c'était faux.
Oui, écoutez, qu'est-ce que c'est une injure à côté de lui qui veut vous étrangler? Enfin, vous voyez.
Ah, mais oui.
Enfin, c'est compliqué. On voit que, évidemment, heureusement, vous nous dites, je comprends que vous ayez éprouvé le besoin d'en parler, que ça ait engendré chez vous une dépression, parce que tout ça est très, très éprouvant.
C'est pas
et puis.
Tout, Caroline.
Comment ?
C'est pas tout.
Ben, j'imagine que c'est pas tout, mais on va peut-être pas pouvoir non plus tout, parce que vous avez une vie longue et riche et voilà.
Non, il y a eu mes sœurs et mes neveux et nièces que j'ai pas connues. Il y a mon fils aîné qui est toujours à Nouméa. Donc, j'ai deux filles et j'avais un fils ici qui s'est suicidé en 2019. Et j'ai été toute seule. Je n'ai pas eu un mot de compassion aux obsèques de mon fils, donc en 2019.
Ah oui, c'est terrible.
Donc vous voyez que je me suis sentie désespérée, abandonnée de tous, sans aucun soutien.
Oui, et même vos sœurs, même si elles ne connaissaient pas bien, c'était leur neveu, enfin, face à ce drame, il n'y a pas eu un mot.
Si elles le connaissaient, parce qu'il s'était réfugié un peu chez elles. Il était revenu en France, il s'était réfugié.
D'accord, il n'y a pas eu un mot de, enfin, un mot de la présence, de réconfort.
Pas de compassion, rien du tout. Et mes filles non plus. J'ai ma fille aînée qui est psychologue, tenez-vous bien, qui a maintenant 60 ans, qui se précipite vers moi. Et je suis surprise parce qu'elle avait des grands cheveux longs, puis elle a ses cheveux coupés. Ah, je lui dis, tiens, à qui tu ressembles comme ça? Ah, elle tourne les talons, elle me dit, je ne ressemble à personne. Et elle s'en va. Je ne l'ai pas revue de toute la cérémonie.
Pour son frère. Pour son frère. Oui, mais en même temps, elle aussi devait être mal. Enfin, c'est s'agissait de son frère aussi.
Certainement qu'elle était mal.
Tout le monde, face à un drame, est bouleversé.
Elle est psychologue, Caroline.
Ah non, oui, mais alors ça... oui, mais moi, étant psychologue, je peux vous dire qu'on n'est pas psychologue de sa famille. En l'occurrence, c'était votre fille, et elle était endeuillée avec ce drame de... qui touchait son frère. Vous voyez, là, elle ne réagissait pas en tant que psychologue. C'était la sœur et la fille, là.
Enfin, ah ben, vous faites bien de me dire ça. Parce que j'en ai eu gros sur le cœur.
Oui, mais on peut pas demander, vous voyez, vous n'êtes pas magistrate. Quand vous étiez dans votre couple, vous étiez pas madame la magistrate. Ou avec vos sœurs, vous êtes dans une relation, c'est fraternel. Vous voyez, on n'a pas son métier tout le temps avec soi. En tout cas, pas avec ses proches.
Mais enfin, j'ai pas eu beaucoup de secours depuis que je suis en France, c'est-à-dire depuis 20 ans. Alors, j'essaie de faire des choses à droite, à gauche. Je chantais dans une chorale, mais je peux plus y aller, j'ai une patte cassée. Je vais à beaucoup de conférences. Aujourd'hui, j'ai animé une dictée dans le Petit Troquet où je vais d'habitude. J'ai eu 4-5 personnes qui sont venues, j'étais toute contente.
Oui.
Enfin, j'essaie de faire des petites choses pour rester en relation avec les gens.
C'est bien. Vous êtes à Nancy maintenant?
Non, je suis en Bretagne maintenant.
Vous êtes en Bretagne? Ah, c'est une région magnifique.
Oui, mais je m'y ennuie. Il ne faut pas que je le dise, mais je m'y ennuie terriblement parce que moi, je suis plutôt intellectuelle.
Mais il y a des...
Il n'y a pas grand-chose.
Partout, ici, il peut y avoir des choses.
Il y a des choses.
Des expos et des conférences depuis...
Oui, mais...
Des intellectuels, il y en a partout.
Je ne peux pas y aller, c'est vrai, mais... J'étais à Nancy, il y avait des théâtres, il y avait de l'opéra, j'ai rien de tout ça ici. C'est ça que je veux dire. Je vais aux conférences, mais je suis quand même handicapée à la marche. Maintenant, j'ai un petit panneau mobilité réduite, vous voyez. Je ne peux pas participer aux...
Mais dans les grandes villes, il n'y a pas des théâtres, il n'y a pas...
Ah ben si j'allais à Rennes ou à Nantes,
voilà,
par exemple.
Voilà, avez tout voyagé toute votre vie, rien ne vous empêche d'aller à Rennes, vous rendre au théâtre. Ah ben oui,
je peux pas marcher.
Mais alors peut-être qu'il faut vous rapprocher d'une grande ville, où vous auriez une vie culturelle.
Vous savez, j'ai fait 30 déménagements jusqu'à ce jour.
D'accord.
Donc, là, je vais avoir 84 ans à l'automne.
Oui, bon. Donc, c'est un choix. Après, on ne peut peut-être pas tout avoir non plus.
Voilà. Mais
vous avez la beauté des paysages. Moi, j'adore le Morbihan.
Ah ben, vous avez raison.
La nature vaut tout. La mer, bon.
Ah ben, c'est sûr que moi, j'avais été 30 ans à Nouméa. La mer, ça me manquait. Oui. Mais enfin,
c'est pas le même climat.
Voilà, c'est pas la même chose.
Mais c'est plus vivifiant, on va dire, là où vous êtes. Bon, c'est bien, vous avez retrouvé votre sourire, votre rire, malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves, et voilà, c'est bien mérité d'un peu de repos, de calme, et puis de temps en temps, peut-être quand vous vous sentirez un petit peu mieux, de petites sorties aussi. C'est bien aussi le théâtre.
Ah, mais je sors, je vais au cinéma, je fais ce que je peux, quoi.
Voilà. Vous avez une vie bien remplie, extrêmement remplie. Mais merci beaucoup,
merci,
ma chère Danielle, de m'avoir donné de vos nouvelles.
C'est gentil.
Et puis j'adore Violaine de savoir aussi. Que vous allez mieux. Ah, mais elle est, oui, elle est adorable.
Donc voilà. Oui. J'ai donné un bon coup au fond de la piscine et je suis en train de revoir.
Vous êtes en train de remonter, ça semble bon. Oui, ça semble bon.
Même s'il n'y a pas de soleil.
Vous êtes battante.
Ils sont trempés par la pluie de Bretagne, mais enfin, c'est le premier
vous savez ce qu'on dit en Bretagne, hein. C'est ce que disait l'amiral de Kersozo, il ne pleut que sur les CONS.
Oui, je sais. On dit aussi.
Moi, j'adore la Bretagne, alors. Bon. Et j'adore justement qu'il y ait ces changements de temps. Je trouve qu'il y a un grain. Vous êtes là, oui, il y a tout d'un coup, ça tombe, vous ne voyez plus rien à l'horizon, vous ne voyez plus rien. Et puis, l'instant d'après, hop, le soleil revient. Vous pouvez aller à la plage. J'adore, moi. On ne s'ennuie jamais, je trouve, en Bretagne. Voilà. Mais bon.
Et ben, faites-nous dire un petit
vive bon la Bretagne, vive les Bretons qui ont des chapeaux.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse. Au revoir, au revoir.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
With you. Every time you go, oh.
Young sur RTL, Every Time You Go Away.
RTL. Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed.
Le chocolat, c'est une petite mine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants à tel point que le chocolat est bon pour le cœur.
Et on doit tout cela notamment au cacao,
qui est un antioxydant par excellence. Et malheureusement, les industriels se servent du marketing pour vendre du chocolat au lait, pas forcément très bon pour la santé, car pauvre en cacao et trop riche en sucre. Il faut garder en tête que plus un chocolat est riche en cacao, meilleur il sera pour votre santé.
Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed, c'est dans Ça va beaucoup mieux, tous les jours à 8h35.
Jusqu'à minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Jusqu'à minuit et demi, vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 pour me parler ou pour réagir à un témoignage, témoigner de votre soutien, partager votre expérience avec nous. Vous pouvez le faire aussi en laissant vos commentaires sur notre page Facebook RTL-parlons-nous, en nous envoyant un message par SMS. Vous le commencez par les trois lettres RTL et vous l'envoyez au 64 930. 35 centimes par message. Et puis, le plus simple, hein, c'est parlons-nous, c'est vous passez un petit coup de fil, 09 69 39 10 11, et vous vous retrouvez avec nous à dialoguer. Et peut-être que Karine aura besoin de vos lumières, de vos conseils, parce que Karine, elle est en cours de reconversion professionnelle. Bonsoir, Karine.
Bonsoir, Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Je vous remercie de me recevoir.
Ben,
je vous ai déjà appelé il y a une dizaine d'années, alors c'est dire que je vous écoute depuis longtemps.
Ben, merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche. Et c'est donc 10 ans se sont écoulés et puis oui. Vous vous posez un peu des questions sur votre travail.
Voilà, oui. Oui. J'ai déjà fait un grand virage parce que j'ai quitté une profession que j'exerçais depuis 20 ans.
Oui. Qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais dans le juridique. Oui. Voilà,
c'est une soirée. On a la magistrature qui est avec nous ce soir sur RTL. Hein. M'intéresse tenir droit. Loin, on avait à l'instant Daniel qui nous parlait de son mari magistrat. Elle aussi qui était juriste. C'est drôle.
Oui. Oui, il y a des coïncidences.
Oui.
Et donc, j'ai quitté ce milieu juridique j'ai déménagé dans le sud.
Oui.
J'ai ma maman qui vit pas très loin de Montpellier.
D'accord.
Donc, je me suis rapprochée d'elle.
Oui.
Et c'était un petit peu, je suis partie quasiment avec un sac à dos parce que j'ai vendu tous mes meubles avec très peu d'économies et en me disant je trouverais bien quelque chose là-bas.
Mais c'était quand ça?
C'était en juillet 2023, ça fait même pas un an.
Mais c'est tout récent. Mais alors, oui. Ça veut dire que vous avez démissionné de...
J'ai démissionné de mes fonctions.
Qu'est-ce qui vous a pris comme ça? C'est que vous n'en pouviez plus? Vous vouliez vous rapprocher de votre mère?
Oui, c'était un petit peu des deux, mais je n'en pouvais plus. J'y pensais déjà depuis longtemps.
Oui.
Et ma chienne est décédée en mars 2023. Je me suis dit, il y a... J'avais moins de frais, parce qu'elle était très malade, donc le veto, tout ça. Et le jour où elle est partie, je me suis dit, il n'y a plus grand chose qui me retient.
Oui, ça a été la goutte d'eau, un peu, comme
oui,
si...
Oui, c'était la goutte d'eau, soignée, puisqu'elle avait eu maladie rénale, les reins fonctionnaient plus, donc je l'ai vu un
dur.
Peu... Oui, ça a été dur, très dur. Depuis, j'ai pas repris. Enfin, j'ai encore un petit chat là de 12 ans.
Il faisait partie des bagages et du sac à dos,
chat. Oui, elle est là au bout du lit, donc.
Oui.
Elle est, heureusement qu'elle est là, donc.
C'était une période un peu difficile pour vous. Il y avait trop de.
Oui, il y a eu beaucoup de choses difficiles et il était temps de
changer.
Quelquefois, on a des intuitions
et
on sait que. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on se dit faut partir, quoi. C'est et je le regrette pas du tout. Hein.
Oui,
je,
mais c'est ça, c'est ce qui compte. Vous êtes bien. Oui. Donc là, dans le sud, vous êtes plus proche de votre mère.
Oui, puis la région me plaît mieux. Je suis à 50 km de la mer, donc je peux y aller régulièrement. C'est génial. C'est sympa.
Mm. Oui.
Et donc, j'ai arrêté... oui, je suis arrivée avec mon sac à dos le 30 juillet.
Mais alors, chez votre mère, vous avez débarqué?
Oui, bon, elle était d'accord, évidemment.
Ah bah oui. Oui, vous l'aviez prévenue quand même, elle.
Oui. Elle savait... c'était en attendant de trouver un travail d'abord et un logement. Et donc, j'ai cherché, j'ai passé des entretiens et j'ai finalement trouvé en octobre 2023 un poste dans un organisme en tant que juriste. Enfin, je rédigeais des actes. Et donc, c'était un CDD de 3 mois.
Oui.
J'étais bien. Je me suis un peu posée. L'ambiance était bonne. Enfin, le groupe. Oui, c'était important. Et puis, alors comme c'était un CDD de 3 mois et que je devais trouver un logement, c'était très compliqué de trouver un logement.
Ah, oui.
J'avais pas non plus un énorme salaire et les bailleurs veulent un CDI. Et comme en plus je suis toute seule, bon.
Et puis alors dans le sud, en plus, si c'est un peu touristique, enfin c'est demandé... Il y a un gros problème du logement en ce moment.
Ouais. Oui, c'est vrai que j'étais pas confrontée à ce genre de soucis là où j'étais avant. Mais mon CDD se terminant au bout de 3 mois, donc début janvier, on m'avait proposé de renouveler, mais j'ai dit non et j'ai pris un autre travail dans une association qui gère les biens des personnes en curatelle.
Ah d'accord, très bien.
Et ça m'a bien plu parce que il y avait une certaine autonomie. J'ai bien aimé me déplacer chez les personnes, gérer leur, superviser un peu leurs besoins.
Ah oui, il y a beaucoup d'humains alors. Vous aviez un contact direct.
C'est vraiment mon domaine en fait. Oui. Donc ça, c'était janvier, février, mars. Et puis bon. Par hasard, j'ai rencontré mon ancienne responsable de là où j'étais en octobre, qui m'a dit « mais on propose maintenant un CDI si tu es intéressé, le salaire est réévalué ». Elle m'a dit « tu peux postuler, il n'y a pas de souci ». Donc j'ai postulé.
Mais dans la boîte que vous aviez quittée ?
Oui. Voilà.
Ah, vous êtes revenu alors où ils avaient une succursale, enfin je sais pas, une antenne dans le sud.
Oui, c'est un organisme un peu, je vais pas citer le nom, mais c'est un peu comme la CAF.
Donc il y en a. Oui, d'accord, c'est implanté un peu partout sur le territoire.
Oui, voilà.
Ah, je comprends. Donc vous êtes revenu à la base de départ, si ce n'est que en restant dans le sud et près de votre mère.
Oui, je suis retournée. Donc je me suis dit pourquoi passer un CDI. Bon, je venais de trouver mon logement, donc j'étais soulagée et je me suis dit un CDI, les conditions, il y a des avantages, les conditions sont meilleures, le salaire est réévalué.
Ah si en plus.
Je connais l'équipe.
Oui.
Et puis donc j'ai passé.
C'était peut-être un petit signe. Oui, effectivement, en plus de retrouver cette dame, mais bon, d'accord, donc vous avez signé.
Et j'ai pas eu de traitement de faveur, puisque j'ai passé une épreuve de 3 heures, un entretien parmi d'autres personnes,
c'était
challengeant. Et donc j'ai été recrutée en CDI, donc j'ai commencé le 8 avril, donc c'est tout récent.
Ah oui, c'est tout récent. Oui.
Sauf que dans le service, il y avait plus qu'une personne sur les 5. Il y en a une qui était en burn-out, une autre qui avait démissionné. Déjà, ça m'a fait un choc de plus retrouver le petit groupe. Et puis, à peine j'étais assise pendant une heure ou deux que je me suis dit dans ma tête, mais je crois que j'ai fait une connerie. De partir de l'association.
De l'association où vous aimiez bien, là, les.
Oui.
Vous gériez les biens des personnes en curatelle, ouais.
Oui, parce que là, le problème. Bon, je peux m'en prendre qu'à moi, hein, puisque je connaissais. Mais c'est vrai que bon, je travaille. Mais donc j'aime bien rédiger des actes juridiques, mais je fais ça 8 heures par jour. Je ne bouge pas de mon siège, sauf pour aller faire des copies.
Vous travaillez sur des dossiers là.
Oui, sur des dossiers.
Alors que dans l'association, vous alliez au domicile des personnes.
Ah
vous
oui, mais il y avait
beaucoup d'humains, enfin, ça n'arrive.
Qui se ressemblaient.
Oui. Mais alors,
je devais.
Ce qui vous a pris. Mais parce que c'était quoi? C'était le salaire est meilleur là où vous êtes?
Ben, c'est surtout que c'est un CDI. Le salaire, si on compte le 14e mois, oui, c'est quand même mieux. Mais maintenant, avec le recul, je me suis dit bon, le salaire, c'est peut-être
pas tout le salaire.
Non,
je suis d'accord avec vous, ça compte. Mais c'est pas tout. Bah, c'est un ensemble de choses. C'est aussi la qualité de, enfin, le sens aussi que prend le travail. Enfin, c'est une ambiance, c'est plein de choses en fait.
Bah, là où je suis maintenant, c'est fou comme les choses changent parce que j'étais dans une équipe où on plaisantait bien. Enfin, moi, je suis pas toute jeune, mais j'étais entourée de jeunes et ça se passait bien. Et puis là, boum, il y a un creux dans le service où justement ils sont en train de recruiter parce que tout le monde part. Il y en a une, là, j'ai appris aujourd'hui qu'elle se rapprochait de son domicile. Donc bon, je suis contente pour elle, mais ça m'a fait un choc aussi.
Est-ce que vous l'aimiez bien?
Je me suis même permise de dire aujourd'hui, mais si je suis revenue, c'était pour les personnes et pour le service. Et là, je me rends compte que tout le monde.
Alors, ce que je ne comprends pas, Karine, c'est que vous me dites que vous êtes restée dans le Sud, mais vous retrouvez les mêmes personnes que là où vous étiez. C'est ça que je ne comprends pas.
Ah non. Je me suis mal fait comprendre. En fait, quand je suis arrivée dans le Sud, j'ai trouvé... moi, je faisais une profession avant qui était libérale. Donc, toute seule, sur dossier, ou aller au tribunal, enfin bon. Tandis que quand je suis arrivée, j'ai postulé dans un organisme. Donc, où j'y suis restée 3 mois.
Oui, je sais.
Et puis après, je suis allée dans l'association tutélaire.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez quitté le secteur dans lequel vous travaillez pendant 20 ans, vous étiez en libéral?
Oui.
D'accord.
Donc c'est le
CDD où vous étiez, où vous aviez les équipes. Ah d'accord. Oui, non, parce que ça, j'étais un peu perdue. Je pensais que c'était dans la région d'origine. C'est... D'accord. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements les derniers temps.
Ouais. Ah oui, ça a beaucoup. Bon, en fait, j'ai l'impression que j'ai hésité entre deux postes. Je suis retournée dans l'équipe où j'étais en octobre, donc dans le Sud, parce que le CDI, la sécurité, l'emploi, le groupe que je connaissais, donc je partais pas encore à l'aventure ailleurs.
D'accord.
Et en fait,
d'un CDD, là, ils vous proposaient un CDI, mais en fait, vous vous rendez compte que bon, il y a beaucoup de, vous dites, il y a des personnes en burn-out, il y a des démissions, enfin, ça tourne pas si bien que ça, quoi.
Non, ça tourne pas si bon. Le travail, ça va, à part qu'il est très monotone.
Et le salaire, vous êtes mieux payé?
Oui, parce que sur l'année, je suis mieux payée. Oui, en plus, j'y vais à pied, j'ai pas de voiture à prendre. Donc tout regardé, j'ai tout mis dans la balance, y aller à pied.
Ça compte ça aussi, qualité de vie, temps de gagner.
Alors c'est vrai que la première semaine, j'étais un peu déprimée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rappelle l'autre organisme. Mais bon, je me suis dit, ça fait pas très sérieux de partir, de revenir, même vis-à-vis du nouveau poste.
Ça fait pas très stable. Oui, ça peut vous porter préjudice, oui.
Et donc, parce que vous savez, j'en viens même à y penser le week-end, alors que depuis que je suis arrivée dans le sud, je faisais mon travail et je pensais plus à mon travail. Je profitais le week-end, et le lundi, repartait une nouvelle semaine.
Mais vous pensez alors à quoi là, le week-end, à votre travail?
Je rumine en fait.
Ça vous pèse?
Je sais que demain c'est férié, je vais y penser. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, mais je peux m'en prendre qu'à moi.
Il y a combien de temps? Il est toujours possible d'annuler, de revenir en arrière, mais ça fait combien de temps là? Ça date d'avril, c'est encore très récent.
Oui,
ça fait même pas un mois.
J'ai deux mois de période d'essai.
Oui, alors attendez peut-être la fin de la période d'essai.
Oui, puis comme ils sont sous l'eau parce que tout le monde s'en va, je me suis dit, je vais pas non plus partir en les laissant.
Posez-vous un peu là. Vous voyez, il faut y réfléchir parce que agir dans la précipitation, vous risquez de vous perdre. Vous êtes en période d'essai.
Oui.
Vous avez commencé le 8 avril.
Le 8 avril.
Bon, vous vous rendez compte, ça fait pas encore un mois. Donc, laissez-vous le temps. Vous pouvez rompre avant la fin de... D'ailleurs, en période d'essai, justement, vous pouvez partir. C'est pas contraignant.
Oui, mais bon, le problème, c'est que j'ai rien d'autre en vue.
C'est ça. Alors, ce que je vois dans votre... Vous avez une capacité, déjà, à rebondir, puisque vous me dites quand même que... Dans la région où vous étiez, après avoir travaillé en libéral pendant 20 ans, du jour au lendemain, vous êtes parti sac à dos, avec votre petit chat sous le bras. Vous êtes parti dans le sud. Quelques mois après, vous trouviez un job. Finalement, le CDD, vous ne convenez pas trop. Vous avez trouvé du travail dans une association. Vous avez votre bagage avec vous.
Oui.
Et pas seulement le petit sac à dos et le chat. Vous avez vos compétences. Vous avez, semble-t-il, un très bon contact. Vous retrouvez facilement.
Oui, partout où je suis allée, les gens étaient contents.
Vous voyez, et je dis ça parce que vous avez quoi, un peu plus de 50 ans, à peine.
Oui.
Bon,
51 bientôt.
Bon, donc c'est pas, enfin, c'est un atout. Donc ça, ça compte, cela. Et c'est plutôt, c'est à mettre de votre côté. Maintenant, vous êtes dans une phase où vous voyez, parfois vous voyez ce que vous avez perdu, pas encore ce que vous avez gagné. Donc il faut prendre le temps un peu d'y réfléchir. Vous me dites que ce qui vous a fait choisir le CDI, c'est peut-être une forme de tranquillité, de stabilité, justement, de moins d'angoisse par rapport à l'avenir. Vous me dites que vous allez à votre travail à pied. Bon, ça compte tout ça dans la qualité de vie, moins de temps. Enfin, ceux qui vivent dans les grandes villes savent à quel point le temps on perd dans les transports.
Bien sûr.
Donc,
oui.
Vous avez un 13e mois, 14e même.
Oui.
Bon, donc un salaire. Donc, tout ça, vous voyez, il faut voir. C'est-à-dire qu'à un moment, alors peut-être que là, c'est parce que vous êtes tourmenté et surtout vous vous en prenez à vous-même en disant j'ai fait une bêtise. Il est toujours possible de revenir là-dessus, si vraiment ça se confirme.
Oui, il faut peut-être que j'attende. Parce que je me suis dit, maintenant que j'ai mon CDI, que j'ai trouvé mon logement, je vais peut-être pouvoir me reposer. Eh ben non, j'ai l'impression que c'est un calme.
Oui, c'est comme si vous étiez toujours en mouvement, là. Un peu comme s'il fallait... en dehors de votre travail, vous me dites vous avez votre mère à côté. Est-ce que vous vous êtes créé un peu un cercle de connaissances, d'amis? Comment est votre vie en dehors?
Pas vraiment. Enfin, je fais beaucoup de randonnées.
D'accord.
J'ai pas eu le temps de refaire un cercle d'amis parce que j'étais plutôt centrée sur le travail.
Ben oui, j'imagine.
Rechercher le logement, c'était important.
Oui.
Par contre, pour compenser cette perte de d'échanges humains que j'avais dans mon travail avec les majeurs protégés, j'ai contacté une association d'aide et j'y suis allée hier parce que j'ai un lundi de congé sur deux.
Ah, c'est bien.
Et je vais commencer le 13 avril. Donc ça va peut-être un peu m'aider à voir du monde.
Le 13 mai, quoi.
Enfin, Oui, le 13 mai, parce que je peux pas y aller avant, je travaille. Mais je serai dans le contact et dans les donner des consultations.
Bénévolement.
Oui, ah oui, ça c'est du bénévolat.
C'est bien, oui. Donc, ce qui vous manque là, le facteur humain, vous allez pouvoir mettre vos compétences au service de cette association.
Oui. C'est ce que j'ai trouvé pour compenser un peu la perte de d'échanges humains. Oui. Enfin, de.
Alors, vous pensiez avoir trouvé au sein de l'équipe que vous aimiez bien, mais il y a eu des changements. Ça, vous ne pouviez pas le prévoir.
Ah non, ça, je
C'est ça qui vous déstabilise aussi. C'est-à-dire que ce qui compensait le travail un peu monotone, c'est qu'il y avait une ambiance agréable et des collègues sympathiques.
Oui, il y avait une ambiance.
Et puis là, il y en a une qui démissionne. Il faut peut-être un peu attendre.
Oui, c'est vrai.